rap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier Culture Média de la semaine. C'est pas pour ça que je suis ravi de vous retrouver parce que je suis heureux de vous retrouver. Au menu, 2 heures d'infos, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Pour vous, on a débriefé hier la nouvelle émission politique de France 2, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Vous avez la parole, c'est le titre. Eux aussi ont la parole, Michel Desmurget, docteur en neurosciences et chercheur à l'INSERM, auteur de « La fabrique du crétin digital ». Un essai très documenté dans lequel il dégomme le mythe des digital natives, ces enfants nés avec un portable dans la main et qui seraient des petits génies, tu parles. Au contraire, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, le QI moyen est en train de baisser. C'est pas le cas de Christophe Lévesque. L'humoriste a le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure et la parole avec. Il remonte sur scène pour ses revues de presse où il dégomme tout sur son passage, de la droite à la gauche, y compris au centre, la présidence et les extrêmes. Il sera avec nous, je crains le pire. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et une fois n'est pas coutume, on va démarrer avec vous Cyril Lacarrière, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour.
C'est
à tous,
le journal des médias, ouais. Les audiences sont encore en train de fermenter. On commence avec vous, quoi au menu ce matin?
Le Ballon d'Or c'est presque demain, les journées du patrimoine c'est vraiment demain, la paix au monde ce n'est pas pour demain, et la Coupe du Monde de rugby c'est résolument pour aujourd'hui.
Alors Cyril, on commence par un trophée qui ne sera remis que dans un peu plus de 2 mois, mais auquel certains pensent déjà, et pas seulement en se rasant.
Le Ballon d'Or 2019 sera remis le 2 décembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Et les organisateurs ont déjà dévoilé le programme de cette soirée qui sera retransmise sur la chaîne L'Équipe. Et cette année, grande nouveauté, la création du trophée Yashin, une récompense destinée aux gardiens, souvent les grands oubliés de ce genre de soirée. Les amateurs de foot auront compris la référence. Ce trophée porte le nom de l'immense gardien russe Lev Yashin, le seul, à son poste à avoir remporté le Ballon d'Or. Et c'était en 1963. C'est donc un hommage pour Yashin, mais est-ce que devoir créer un trophée spécial pour les gardiens, ce n'est pas acté qu'ils n'obtiendront plus jamais la récompense suprême? Réponse de Jérôme Saporito, le directeur du pôle télé de L'Équipe, au micro d'Alexandre Omar.
Cette année, celui qui aujourd'hui dit qu'il sait qui sera le Ballon d'Or et même qui sera sur le podium, il est sacrément fort, parce que cette année, c'est une des années les plus indécises de l'histoire du Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, Messi, Van Dijk, Mané, Alisson... Ils sont 5-6 à pouvoir avoir une chance de concourir pour ce Ballon d'Or. Donc cette année, elle est particulièrement intéressante. Évidemment, il y a les deux monstres sacrés. Ils trustent 10 Ballons d'Or à eux deux. Mais à côté, ils ne sont peut-être pas les favoris de beaucoup. Donc savoir si ce sera une surprise, si ce sera un des deux géants, ce sera tout l'enjeu de la cérémonie.
Alors, ce qui est tout l'enjeu de cette cérémonie, c'est de savoir qui va gagner le Ballon d'Or et non pas la question du gardien de but. Une petite inversion dans les sons de Jérôme Saporito. On va revenir au gardien. Et là, en fait, le directeur de la chaîne L'Équipe nous expliquait, est-ce que le fait que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo aient trusté 10 des 12 derniers trophées ne nuit pas au suspense. On va réécouter Jérôme Saporito sur la création du nouveau trophée récompensant le meilleur gardien.
On sait de par les votes que l'histoire a prouvé en 64 éditions qu'il n'y a eu qu'un seul gardien qui a été récompensé. Donc c'était aller sur une évidence que les gardiens méritent aussi, parce que c'est tellement particulier comme poste qu'ils méritent aussi de recevoir le trophée. Mais le meilleur gardien peut en même temps rafler 2 prix et être meilleur gardien, donc trophée Lev Yashin et Ballon d'Or.
Cette année, la cérémonie sera présentée par un grand champion, Didier Drogba, l'attaquant ivoirien qui continue de faire rêver les supporters de l'OM. Lui n'a jamais reçu ce fameux Ballon d'Or, mais cela n'empêche pas d'être heureux de jouer au maître de cérémonie. On écoute Didier Drogba, toujours au micro d'Alexandre Omar.
Je suis très fier parce que c'est un trophée que j'ai essayé de remporter pendant toute ma carrière, sans pour autant mettre la performance individuelle au détriment de la performance collective. Mais c'est un trophée que tout grand joueur, que tout joueur qui, à un moment donné de sa carrière, arrive à un certain niveau, aspire à remporter. Et donc je suis très fier.
Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Les portes du patrimoine français vont s'ouvrir au public. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez aller vous balader du côté de France Télévisions.
Oui, si vous passez par le 15e arrondissement de Paris, profitez-en pour visiter les locaux du groupe public de télévision. France Télé vous a concocté un programme aux petits oignons. Visite d'un cas régie, présenter la météo, rencontrer les mascottes des zouzous. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément. Faire des selfies sur des bornes plus belles la vie. Et les plus chanceux pourront même assister en direct à Télématin demain samedi. What else, comme dirait Georges.
Les plus chanceux, les plus matinaux. Oui, aussi, les journées du patrimoine, on en reparle avec Louise Bernard dans Les Indispensables, ce sera à 10h30. Cyril, tout autre sujet, on en parlait hier matin à ce micro avec Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, du journal Le Monde. L'imbroglio autour du quotidien se poursuit.
Que de rebondissements, de fausses pistes et de petites roublardises. Je vous dois à nouveau un rappel des faits. Depuis plusieurs mois, la rédaction du Monde demande à ses actionnaires de signer un droit d'agrément, lui garantissant d'avoir son mot à dire en cas de changement d'actionnaire. Et jusqu'ici, les choses traînaient lourdement. La faute à Mathieu Pigaz, qui n'avait pas envie que son association avec le tchèque Daniel Kretinsky soit remise en cause. Bon. Mais les choses se sont accélérées hier. Mathieu Pigaz a signé le droit d'agrément né dans la souffrance, tout en prévenant qu'avec son associé, le tchèque Daniel Kretinsky, il allait procéder au rachat des 20% du capital du Monde, actuellement détenu par le groupe espagnol Prisa. Sauf que, selon Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, je le rappelle, le droit d'agrément signé par Pigaz n'est pas le même document que celui négocié ces derniers jours.
Et c'est alors que Xavier Niel, le deuxième homme fort du Monde, le deuxième actionnaire, pointe le bout de son nez.
Le fondateur de Fried annonce par le biais d'un communiqué qu'il est soulagé de la décision de son associé, avec qui les rapports sont devenus très distants, mais, car vous vous en doutez, il y a un mais, Niel veut que les 20% rachetés à Prisa soient apportés au pôle indépendance pour renforcer son indépendance. Et il annonce qu'il proposera début octobre à ce que les actionnaires travaillent ensemble à transférer 100% du capital du groupe Le Monde au sein d'une fondation afin, je cite, de sanctuariser son indépendance.
Et voilà où nous en sommes à 9h16, suite au prochain épisode. Peut-être même pendant le direct de cette émission.
Qui sait ?
Autre chose, début de la Coupe du Monde de rugby aujourd'hui au Japon et pour l'occasion, le journal L'Équipe est allé piocher du côté du manga pour faire sa une.
C'est le dessinateur de manga Tony Valente qui s'est chargé de cette une célébrant à la fois le rugby et la culture japonaise version manga. Un superbe dessin accompagné du titre Soleil Ovale. Nous avons demandé au dessinateur toulousain de nous dire comment il a imaginé cette une un peu particulière.
C'était inattendu de faire participer un auteur de manga à la une, surtout d'un journal pareil. En plus, je ne fais pas un manga sportif, donc c'était d'autant plus inattendu. On m'a juste dit de mettre un ou des personnages de mon univers et de les mettre en scène avec des joueurs de rugby. Donc j'ai fait plusieurs propositions. Donc la une décrit une espèce de match un peu fictif, puisqu'il y a plusieurs joueurs de plusieurs équipes différentes sur le terrain. Et il y a mon héros au milieu, Seth, de la série Radiante. Ça pourrait être un cliché de n'importe quel match avec des spectateurs derrière.
Et si Tony Valente signe le dessin de la première et de la deuxième page, c'est tout le journal du jour qui est truffé de dessins. Allez donc feuilleter L'Équipe aujourd'hui.
Et puis on reste dans le sport pour terminer ce journal, Cyril, avec une nouvelle bataille qui s'annonce. Cette fois, c'est pour les droits du foot.
Les droits télé pour la Ligue des Champions vont bientôt être remis en jeu.
Encore ?
Oui. Encore,
mais oui.
C'est justement L'Équipe qui
possible.
Le révèle ce matin, ça n'arrête pas. L'UEFA, c'est-à-dire l'instance européenne du football, va lancer un appel d'offres pour les droits de la prestigieuse compétition européenne à compter de la saison 2021. On vient commencer de la saison 2019. Hein. Oui. Voilà de quoi mettre encore un peu plus le bazar dans la tête des téléspectateurs français. Si aujourd'hui c'est RMC Sport qui diffuse le foot européen, qui sait ce qui adviendra à l'issue de cette nouvelle bataille de gros sous ? RMC va-t-il garder son précieux ? Canal Plus ou beIN Sport vont-ils revenir dans le game ? Et quid de Mediapro, le groupe chino-espagnol qui s'est offert les droits de la Ligue 1 à partir de septembre prochain ? On se croirait dans Game of Thrones.
Carrément.
Du patrimoine, un ballon doré, une interminable bataille au monde, du manga dans les journaux et des droits sportifs qui mettent le bazar. Voilà pour le tour de l'actu des médias. À lundi, Cyril.
À lundi.
Dans un instant, c'est l'info média du jour avec un retour sur le premier numéro de Vous avez la parole, nouvelle formule de l'émission politique, mais toujours présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Décryptage avec nos spécialistes dans Culture Média et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
L'infomédia du jour avec le décryptage de la nouvelle formule de l'émission politique devenue Vous avez la parole, ce sera juste après les audiences, Philippe, avec Pierre Desereau.
Oui, mais je rassure sa famille et ses amis, il est là, il était coincé dans les embouteillages.
C'est ça.
Bonjour Pierre Desereau de Pure Média.
Bonjour Philippe.
Alors d'habitude on commence par les audiences, là on enchaîne avec les audiences.
Ben
qu'est-ce
voilà.
que les Français ont regardé hier soir
ça
à la télé ?
Ça change un peu, et les Français hier, ils ont regardé à nouveau Le Temps est assassin sur TF1, c'était le final de la série avec Mathilde Seigner, 4 900 000 téléspectateurs. spectateurs, 25% du public. C'est stable et la série qui s'achève sur un bon bilan, ouais, puisqu'elle sera restée aux alentours de 5 millions de téléspectateurs tout au long de sa diffusion. France 3 est deuxième avec un bon score pour le film Le Fils de Jean. C'était un film inédit avec Pierre Deladonchamp. 2 400 000 téléspectateurs, 11,5% du public. Pour la case du jeudi soir sur France 3, bah c'est plutôt pas mal. M6 est troisième avec la finale. C'était la finale donc de Pékin Express. 2 millions, un peu moins de 2 millions de téléspectateurs, 11,3% du public pour une finale où on aurait pu attendre un peu plus. Ouais. Donc c'était un peu décevant. Et après, on en arrive donc au score.
Eh bien oui, la question que tout le monde se pose. Combien a fait la nouvelle émission politique de France 2, rebaptisée Vous avez la parole, qu'on va débriefer dans quelques instants.
Exactement, c'était le chiffre que tout le monde attend ce matin, autant les professionnels des médias que ceux de la politique. Et donc 1 270 000 téléspectateurs, 7,2% du public. C'est un petit score, tout petit score même pour l'émission politique, la nouvelle émission politique de France 2, puisque dans sa version précédente, qui s'appelait donc l'émission politique, jamais on avait fait un score aussi faible. Voilà.
Alors je précise que l'invité, on va en parler, était Xavier Bertrand, et que dans l'émission politique, il y avait en arrière-fond la crise des Gilets jaunes. Merci Pierre Desereaux, à lundi.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
France 2 lançait donc sa toute nouvelle émission politique de prime time rebaptisée Vous avez la parole. L'invité, c'était le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avec cette promesse, pas d'invité en majesté, mais du débat. Paris réussi ou raté, est-ce qu'on peut renouveler le traitement politique à la télé? On décrypte cette nouvelle formule du magazine avec nos invités. Bonjour François Rousseau.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste média, à côté de vous Alexandre Kouchner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Européen, dont le troisième numéro vient de sortir. Alors après trois saisons et avant la guerre des municipales, France 2 voulait un coup de frais. Et dès le 20h de Sophie Lapix, Léa Salamé en direct avait prévenu.
Et oui Anne-Sophie, nouvelle saison, on change tout, ou presque, enfin on a quand même gardé Thomas Soto.
C'est gentil.
Regardez le nouveau décor, on a tout cassé pour faire quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus accueillant, de beaucoup plus confortable, pour que la parole circule, car le débat, c'est le maître mot de cette nouvelle émission.
Alors François Rousseau et Alexandre également, vous avez regardé comme moi l'émission, ça durait 2h40, promesse tenue?
À promesse tenue, bon, c'est vrai que c'était long. Et ils ont effectivement tout changé, le décor, avec toujours plus de rouge, des panneaux en bois pour réchauffer l'ambiance. Fini, hein, la grande table ronde en plexi, vous vous souvenez, jugée trop écrasante. Et à la place, Xavier Bertrand était seul dans un petit fauteuil avec à ses côtés, sur un petit bureau, Léa Salamé et Thomas Soto, puisque Thomas Soto est désormais présent toute l'émission. Ça donnait un petit côté interrogation orale.
Mais en fait, ça ressemble au late show américain, comme celui de Jimmy Fallon ou autrefois David Letterman. Pourquoi cette idée?
Eh bien, un objectif, désacraliser l'invité politique, le faire descendre de son estrade. La rédactrice en chef de l'émission, c'est Alix Bouyaguet. Elle a été correspondante à Washington et elle a proposé d'importer cette touche cosmétique pour plus de cosy, voire pour arracher plus de confidence à l'invité.
Alors, à propos de confidence, c'est pas toujours le cas, mais l'invité, Xavier Bertrand, a fait une annonce forte dans l'émission. C'est le rêve de toute personne qui fait une émission politique, c'est ensuite d'être repris dans les journaux. Là, c'est le cas. Citation de Xavier Bertrand, déclaration reprise partout ce matin dans les radios et sur les chaînes d'infos. Écoutez.
Quand on vous entend dire « Paris, j'ai aucune raison d'y retourner », on vous prend au mot, vous êtes dans les Hauts-de-France, vous restez dans les Hauts-de-France et vous êtes candidat à votre réélection dans les Hauts-de-France en 2021.
Oui, je serai candidat à cette élection en 2021.
Si vous êtes élu, que vous conservez la présidence de cette région, est-ce que vous irez au bout de votre mandat?
Vous voulez pas être plus clair pendant que vous y êtes?
Si, on va être plus clair. Est-ce que vous voulez être président des Hauts-de-France ou président de la France?
Est-ce que je suis candidat à la présidentielle?
Oui.
Est-ce que je serai candidat à la présidentielle? J'y pense. Mais y penser ne suffit pas.
Alors Alexandre Kouchner, ça incite à la confidence. Selon vous, c'était prévu, pas prévu? Quand bien même le décor, il serait quand même venu faire son annonce, Xavier Bertrand, où il s'est laissé aller un moment où est-ce que c'est de la com? Vous en pensez quoi?
Je suis sûr que Xavier Bertrand s'est laissé emporter par le moment, par la proximité de Thomas Soto et de Léa Salamé pour aller laisser vraiment dire ce qu'il avait au fond du cœur, c'est-à-dire que peut-être il pense à la présidence de la République.
Pas d'ironie.
Tout ça est évidemment préparé. C'est le but d'une émission politique. Je suis frappé d'une chose. On dit qu'on a tout réinventé, mais là on parle de mobilier. C'est-à-dire que si on réinventait les choses, il faudrait peut-être qu'on se parle autrement ou qu'on parle d'autre chose.
On va parler du débat après, vous inquiétez pas, parce qu'après il y a une grande partie débat dont on va parler, mais déjà le dispositif.
Le dispositif, ils avaient en tout cas pour ce dispositif un bon client, c'est Xavier Bertrand, quelqu'un qui aime la proximité, qui met en avant son parler simple, son action de terrain. Sa grande annonce, effectivement, fait le tour des plateaux. Sa grande annonce, c'est qu'il y pense, s'il est déjà réélu aux Hauts-de-France, tout en disant que les Hauts-de-France sont sa priorité. Sa grande annonce, c'est qu'il y pense. C'est mieux pour un homme politique de penser.
Il appréciera s'il nous écoute. François Rousseau, France 2 avait annoncé une émission totalement transformée. C'était la Révolution hier soir ?
Non, c'était pas la Révolution, c'était remanié. Et les fidèles ont retrouvé les chroniques et les rubriques habituelles. Le reportage en immersion, hein, c'était 24 heures avec Xavier Bertrand. Ensuite, il y avait le film de l'actu. Vous savez, c'est un reportage qui récapitule les faits marquants de la semaine. Et l'invité peut interrompre quand bon lui semble pour commenter. Et bien pour ça, il disposait d'un buzzer.
Il y avait une émission absolument magnifique là-dessus, présentée par Paul Amar sur Paris Première, dont le nom m'échappe à l'instant, c'était génial. Et on arrêtait quand on voulait.
Exactement. Bon, c'est un petit côté gadget, c'est efficace. Et donc, Xavier Bertrand, ensuite, a aussi dû répondre à un petit questionnaire, un pour ou contre, à une série de questions concrètes, la PMA, le septennat. Et puis, il a eu droit à son baromètre de fin, sondage d'émission.
Alors, d'un mot, le changement était où ?
Le changement, il était ailleurs, il était dans le format de l'émission. Je vous explique pourquoi. Avant, l'émission politique, c'était une interview fleuve, quasiment 3 heures avec l'invité, la fameuse séquence engueulade lors du duel face à un adversaire. Mais ça, c'était avant, comme on dit. Hein. La crise des Gilets jaunes est passée par là. Et avant l'été, toute la direction de France 2 et l'émission politique se sont réunis en séminaire. Ils se sont dit comment on change ça, comment on entend le message des Gilets jaunes. Et ils ont décidé une émission éditorialement changée, c'est-à-dire moins de face-à-face solennel entre journalistes et invités politiques, plus de débats, plus de sociétés civiles, un peu comme le font les chaînes d'infos. Et donc hier, à 22h, adieu le petit fauteuil à l'américaine, adieu le petit bureau, et place à une agora, des pupitres, des micros en cascade, et 15 autres invités à parité quasiment parfaite. Alors, un économiste du Collège de France, une infirmière.
Racontez pas tout parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de ce débrief. Et juste l'émission de Paul Amar sur Paris Première avec le buzzer qui arrêtait tout, c'était recto verso.
Bravo. François le disait, adieu l'émission politique. Bonjour, vous avez la parole. La première, c'était hier soir. Et dans l'infomédia du jour, on revient sur l'émission de France 2 avec le duo Salamé Soto. Suite du décryptage juste après ça avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Analyse et décryptage de l'émission Vous avez la parole, dont la première était hier soir sur France 2. On en parle dans l'infomédia du jour, Philippe Vandel, avec nos spécialistes François Rousseau, journaliste média, et Alexandre Kouchner, co-rédacteur en chef de la revue Européen et enseignant à Sciences Po.
Alexandre Kouchner, on parlait du début de l'émission qui était en deux parties. Comment avez-vous trouvé la seconde, c'est-à-dire la partie débat ?
Difficile comme le pari qu'ils ont tenté de relever hier. Il faut désormais rapprocher les citoyens de la politique, et on le fait avec des journalistes qui sont au moins aussi décriés que les hommes et les femmes politiques eux-mêmes. Donc c'était très difficile. Pas sûr qu'on en ressorte grandi hier. C'était long, c'était cacophonique. C'était en fait presque trop. 15 invités, beaucoup de doublons, 2 ministres, on n'a pas très bien compris pourquoi. Des invités dont on ne sait pas s'ils ont parlé à un moment. Je pense notamment à Nathalie Saint-Cricq, qui est quand même la choupe homotique du service public. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi elle est là. Elle a posé 2 questions, on ne les a pas entendues. Il y avait beaucoup d'invités. Il y avait, hélas, beaucoup d'éclats de voix et pas nécessairement beaucoup de fond.
Je vais faire du décryptage d'Alexandre Kouchner. Choupo-Moting, c'est un attaquant du PSG dont on ne sait pas trop s'il est là, s'il est prêté, s'il est dans le club. Des fois, il rentre sur le terrain, il plante, des fois, il rate des buts. On ne sait pas trop où est Choupo-Moting. Sur le plateau, je reviens à la télévision et je suis sérieux, il y avait 15 intervenants, plus l'invité, plus les 2 présentateurs. Ça fait 18 en tout et parfois, on avait du mal à s'entendre.
Donc, effectivement, quand ce qui est intéressant, on ne comprend plus. Hein. On ne vous entend plus. Vous allez empêcher les gens de s'endormir chez eux.
Non mais c'est la première fois que j'entends un présentateur espérer que les gens s'endorment devant son émission. Au-delà de l'humour, François Rousseau, on a choisi à dessein ce passage évidemment. C'était vraiment la foire d'empoigne sur le plateau.
Écoutez, à France 2, ils espéraient, hein, je les cite, un peu de bordel, mais sans cacophonie. Vous savez, époque Michel Pollack, ouais. Droit de réponse, années 80. Bon, résultat, on a eu un peu des deux. On a eu un peu de bordel, un peu de cacophonie. D'ailleurs, ils m'ont dit ce matin que pour la prochaine émission le 17 octobre, ils enlèveraient 2 intervenants.
Ouais, Alexandre Kouchner, on vient d'entendre les résultats d'audience de l'émission, c'est pas terrible, c'est même un très mauvais. Vous imaginez que cette formule peut être pérenne ?
Je pense qu'ils doivent, ils vont tirer sûrement les enseignements de cette première. C'est difficile une première, c'est toujours un peu compliqué. Il y avait sûrement un peu trop de monde. Il y avait également ce format un petit peu flottant de cet invité principal qui se fond dans le débat mais à qui on doit quand même donner la parole un peu plus que les autres. Et il y a surtout aussi une question de fond. Il y avait parmi ces 15 personnalités représentatives représentative. Trois personnes qui étaient là pour représenter les citoyens. On les a, à mon sens, très peu ou trop peu entendus. Ils étaient celles, car c'était trois femmes, qui à chaque fois recentraient le mieux le débat. Des paroles courtes, des paroles vraies. Ça s'appelait « Vous avez la parole », on n'a pas très bien compris exactement qui l'avait.
François Rousseau, le débat, rien que le débat, c'est l'avenir des émissions politiques. Il n'y a plus de tête d'affiche, comment ça se passe?
Effectivement, il y a une forme de pragmatisme, hein, vous savez, aujourd'hui dans les rédactions. Et c'est une vérité qui se dit sous le manteau dans le petit milieu médiatique à Paris. C'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, eh bien, les télés, elles manquent de bons clients, elles manquent de bêtes politiques. Or, tenir une émission de 2 heures en prime time avec Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Christiane Taubira et faire de l'audience, ça, avant, ça existait. Mais le paysage politique a changé et du coup, les médias s'adaptent. Aujourd'hui, les figures de la Macronie, vous voyez, les ministres de Macron sont moins identifiés.
Il y en a même dont on ne connaît toujours pas le nom. Enfin, le grand public ne connaît toujours pas le nom après 2 ans et demi.
Exactement. Donc, c'est plus risqué pour la télé. Et même le service public a besoin de faire de l'audience. Donc, on privilégie des débats très ouverts comme hier, avec des sensibilités différentes et des grandes gueules. Hein. On a vu l'écologiste Isabelle Saporta. On lui doit la punchline de la soirée. C'est quand elle a pris à partie la secrétaire d'État, Amélie de Montchalin.
Au fond, ce qui fait la base de cette grogne n'a pas été pris en compte. Vous parlez comme des fichiers Excel des deux. C'est incroyable. Alors, il n'y a aucune vision, rien. Vous ne nous proposez rien. Vous êtes là, vous repartez. Mais non, mais vous ne nous faites pas rêver. Vous ne nous emmenez pas et vous ne nous proposez rien.
C'est retrouver des industries, c'est faire des réformes pour que les entreprises reviennent.
Vous êtes inaudible.
Elle était excellente, il faut le reconnaître. Et là, on est dans une émission média, il faut le dire. Pour qui ne connaîtrait pas Isabelle Saporta, c'est la compagne de Yannick Jadot, le leader écologiste, qui a démissionné de RTL, justement, pour ne pas entraver l'activité Exactement. Politique de son compagnon. Mais là encore, c'est une professionnelle de la parole. Je ne lui reproche pas, mais je note ça.
C'est avant tout une et une grande spécialiste des sujets environnementaux.
En même temps, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et on peut se dire, Alexandre Kouchner, que c'est la seule émission politique rituelle de prime time. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Eh bien, ça veut dire que c'est nécessaire. Ça veut dire que de toute manière, la matière en elle-même est compliquée. La politique, si tout le monde était d'accord et si personne ne se coupait jamais la parole, ce serait d'abord pas très intéressant. Et puis ensuite, ça n'accoucherait jamais de rien. Il faut sûrement repenser la manière dont on parle à nos concitoyens de la politique. Est-ce que ces débats plus ouverts peuvent y parvenir ? Sûrement. En tout cas, on ne peut plus rester sur du descendant. Mais il y a aussi une vraie question un peu journalistique qui est celle d'après des questions qu'on va traiter. La question des retraites, c'est une question d'actualité, elle mobilise dans nos rues aujourd'hui. Et en deuxième partie de soirée, on nous annonce à ce moment-là qu'on va parler d'immigration, avec ce moment un petit peu surréaliste en conclusion où on revient vers ceux qui représentent nos concitoyens sur ce plateau, à qui l'on demande « Et vous, ce sujet vous intéresse-t-il » Elles répondent « Non ». On demande à Brice Teinturier si ça intéresse les Français. Il répond que franchement, c'est pas le plus important. Peut-être que pour réveiller les émissions politiques, on devrait s'intéresser vraiment à ce qui intéresse nos concitoyens.
Alors, je vais me faire l'avocat de l'émission. D'abord, c'était un sujet qui avait été lancé dans un séminaire par le président en personne, Emmanuel Macron, et deuxièmement, ils l'ont mis à la fin. Donc, le sujet le moins important, on commence par le...
Ça a duré 45 minutes quand même. Il y a eu les retraites. Il y a eu les retraites pendant une heure.
Même chose, je trouvais qu'on en a trop fait sur l'immigration dans l'émission politique. François
Rousseau. Je pense que s'ils avaient passé du temps sur l'écologie, sur le climat, vu le contexte, vu les manifs sur le climat annoncées samedi, là, à Paris encore, les gens auraient peut-être écouté davantage cette émission et n'auraient peut-être pas zappé.
Selon vos infos, est-ce que des émissions se préparent sur d'autres chaînes que le service public, et je pense notamment aux municipales ? Que vont faire TF1, éventuellement M6 ?
Eh bien, TF1, leur parti pris, c'est l'événementialisation. En réalité, il y a encore de la politique à TF1, mais il n'y en a plus beaucoup. Vous savez, depuis 7 sur 7 et l'arrivée de 7 à 8, c'est pendant les campagnes et au moment les plus chauds de la politique qu'on a des grands événements, des grandes soirées en prime time. Mais sinon, ils n'ont plus un magazine politique récurrent où ils invitent des invités dans des politiques dans leur JT de 20h. Pour France Télévisions, les municipales, évidemment, c'est très important. Et l'émission qu'on a vue hier, elle veut être le fer de lance. Elle voulait donner la marque hier. Bon, c'est pas très réussi en audience. Et elle va s'appuyer, France Télévisions va s'appuyer surtout sur France 3, qui est la chaîne des régions, pour traiter les municipales.
Et ils pourront faire des débats région par région, parce que peut-être que les gens de Lyon n'ont pas envie d'entendre le débat des candidats à Toulouse et vice-versa. Voilà. Merci beaucoup François Rousseau, journaliste média. Merci Alexandre Kouchner d'avoir été avec nous. Alexandre Kouchner, vous êtes rédacteur-chef de la revue Européen. C'est une revue trimestrielle ?
trimestriel consacré à l'Europe, non pas à l'Europe politique, mais à l'Europe que nous vivons, c'est-à-dire autant ce qui nous rapproche que ce qui nous éloigne.
C'est l'Europe que vous vivez, Alexandre Kouchner ? Parce qu'en titre, le juridique, c'est « Prostitution, quel bordel ».
Alors, c'est pas moi qui ai signé cet article.
Non, évidemment.
Je tiens à le dire, mais l'article est fascinant, effectivement, la manière dont on vit le sexe et son commerce, c'est-à-dire notamment le sort de celles et ceux qui l'exercent, diffère radicalement dans les pays qui nous entourent. Et nous avons un journaliste qui a décidé de faire un reportage en immersion.
Et les maisons closes sont autorisées en Allemagne, et c'est le sujet d'un très très bon livre d'Emma Becker qui sort chez Flammarion, qui s'appelle La Maison, dont nous avons parlé ici dans Culture Média.
Oui, c'est avec Nicolas Caro. Culture Média reçoit dans un instant Michel Desmurgés. Il est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Il vient nous parler de son dernier ouvrage, La Fabrique du Crétin Digital. Tout un programme, et c'est juste après ça sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et on accueille Philippe Vandel, notre premier invité média.
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le QI moyen est en train de baisser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un scientifique, il est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Bonjour Michel Desmurgés.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions du Seuil, La Fabrique du Crétin Digital, un essai très documenté, très argumenté. Il est sous-titré « Le danger des écrans pour nos enfants, c'est quoi ce danger ?»
C'est un danger général qui touche tous les facteurs du développement, c'est bien ce qui fait problème. Donc ça touche le développement intellectuel, ça touche le langage, ça touche l'attention, ça va toucher la mémorisation, ça va toucher après le développement émotionnel, le développement social à travers des causalités des facteurs qu'on connaît. Donc le danger, c'est effectivement une mise en danger du développement et le fait que le cerveau des enfants, contrairement à ce qu'on nous dit, qui est un cerveau quand même assez ancien, puisque voilà, c'est un cerveau qui vient de l'évolution, est pas fait pour ce programme-là.
Les écrans, c'est-à-dire les ordinateurs, c'est-à-dire les tablettes, c'est-à-dire les smartphones, il y a des enfants qui ont des smartphones très très jeunes, vous donnez des chiffres sur le temps d'exposition aux écrans suivant les âges des enfants.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres, que les études soient faites en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Australie, c'est à peu près les mêmes chiffres de partout. Ils sont assez astronomiques. Des enfants de 2-3 ans, on frise déjà les 3 heures par jour. Des enfants de 8 ans, on frise les 5 heures. Et puis les adolescents, ça devient stratosphérique, puisqu'on est entre 6h30 et 7h. C'est trop, c'est juste extravagant, c'est hors norme. C'est pas excessif, on dit c'est excessif et tout, faut faire attention. Mais là, on est au-delà de l'excès.
Vous nous expliquerez en quoi c'est excessif et quelles conséquences sur le développement cérébral. Les digital natives dont on nous rebat les oreilles depuis l'an 2000, j'entends que ça, des gamins qui seraient nés avec un portable en main, qui seraient tous des petits génies en informatique, vous dites que c'est un mythe, voire du pipeau complet.
Ah oui, c'est ce que les chercheurs appellent une légende urbaine, mais en même temps c'est un mythe bien pratique parce qu'il permet face aux problèmes qu'il y a sur le langage, sur l'attention, etc., dont on reparlera, ça permet de dire voilà, ils apprennent, ils savent différemment. Quand on regarde, effectivement, ils sont capables d'utiliser des applications trivialissimes, dont un cadre dirigeant de Google nous disait on fait nos applications, et ces applications en général sont faites pour être aussi faciles à utiliser qu'une brosse à dents, et c'est pas parce que vous savez utiliser ces applications que vous avez utilisé tout ce que le numérique peut avoir positif. C'est pas une technophobie maniaque.
Bien
le
sûr.
Numérique a des choses, des aspects positifs. Ici, vous l'utilisez, moi, je l'utilise dans mon travail. Mais le fait d'utiliser Facebook et d'aller sur Snapchat et de savoir télécharger un podcast ne fait pas de vous un grand informaticien.
Oui.
C'est comme si on me disait, je suis un grand cuisinier parce que je vais manger chez Bocuse. Ça n'a pas de sens.
Ouais, c'est rien à voir avec le petit génie qui saurait démonter et remonter une montre. C'est pas du tout ça. Alors, on nous explique qu'il faut vivre avec son temps, que le cerveau est plastique, qu'il s'adapte à tout, donc y compris aux écrans. Vous dites pas du tout.
Alors, le cerveau, il s'adapte, mais c'est pas parce qu'il s'adapte qu'il s'adapte bien. Moi, je peux m'adapter à 6000 mètres, mais je vais pas être aussi efficace qu'au niveau de la mer si je me mets à courir. Et puis, notre cerveau, encore une fois, je l'ai dit, il vient de l'évolution.
Ouais.
Et donc, l'évolution a posé un certain nombre de contraintes sur le cerveau. Il y a une contrainte, c'est l'humain. C'est-à-dire que la même information délivrée par un écran et délivrée par un humain, mon cerveau réagit pas pareil.
Ça se quantifie ?
Oui, ça se quantifie. Ça a été fait par des études qu'on appelle EEG, donc on enregistre l'activité électrique du cerveau. Ça a été fait, c'est une anecdote, ça a été fait la première fois par un chercheur qui travaille sur un certain type de neurones, sur des neurones miroirs. En fait, c'est des neurones, si je vous souris, ou mes neurones vont réagir de la même façon que si je vous vois sourire.
Ouais.
Et en fait, il en a eu marre de faire des grimaces à ses singes, ce chercheur. Et donc, il s'est filmé en vidéo en train de faire ces mêmes grimaces à ses singes. Et les neurones qui réagissaient de façon extrêmement importante et intense, soit ne réagissaient plus du tout, soit réagissaient de façon complètement marginale. Mais il y a plein d'exemples. C'est-à-dire, si vous allez, je sais pas, si vous allez à l'opéra, si vous allez au match de foot, c'est pas du tout la même chose de l'avoir en présentiel que de le regarder à la télé.
Ça, on est tous d'accord. Mais moi, ce que j'ai appris avec vous, parce que je m'avais pas échappé qu'un match à la télé dans le stade, c'était différent. Ce que j'ai vraiment appris avec vous, c'est que quand on apprend des nouveaux mots à des enfants, c'est totalement différent que ce mot soit enseigné par un écran ou par les parents ou par un prof, en tout cas par un être en chair et en os.
Oui, ça fait partie des choses de lobbyiste. Alors un enfant, si vous le mettez devant Dora ou un programme comme ça, il va finir par apprendre un mot. Je veux dire, il va finir par beugler 1, 2, 3, yellow et tout le monde va s'extasier en disant il parle anglais. En fait, on s'aperçoit que des enfants jeunes, si vous les exposez à 2-3 mots avec un humain, je veux dire, il regarde le verre, la maman ou le papa dit verre, et le gamin, au bout de 2 fois, il a compris verre. Mmh. Avec ces outils-là, on s'aperçoit qu'il faut entre 20 et 60 répétitions pour qu'il arrive à percuter verre. Et encore, il va avoir du mal. Le gamin, quand il a appris verre avec un adulte, que ce soit un grand verre, un petit, un verre à pied ou un verre de table, il va faire la différence. Mais quand il l'a appris avec ce genre de truc, eh ben, il apprend que le verre qu'on lui a montré, pas d'autre.
C'est incroyable ce que vous racontez. Ça me rappelle une histoire de mon enfant quand il était tout petit. L'ascenseur, il l'appelait il arrive. Parce que 2 ou 3 fois, il m'a entendu dire devant l'ascenseur, il arrive. Et il a cru que c'était le nom de l'ascenseur. Donc il a suffi 3 fois pour qu'il apprenne le nom. Après, oui. Je lui ai dit, c'est pas ça, c'est un ascenseur. Il a réappris le nom aussitôt. Donc votre livre dit vrai. Vous donnez une statistique qui fait froid dans le dos. Sans écran, un enfant entend 1000 mots par heure. Avec écran, seulement 150 mots. Et vous parlez des jeux vidéo. Certains disent que ça permet de stimuler le cerveau. Qu'en dites-vous ?
Alors, c'est un peu comme si je vous disais, le tabac, c'est extrêmement positif parce que ça permet d'avoir un effet marginal sur le poids. Quand on regarde, il y a certains effets marginaux, notamment sur l'attention visuelle. C'est-à-dire que si vous mettez tout un tas de lettres sur un écran et que vous demandez à 2 personnes est-ce qu'il y avait un B dans les lettres, le joueur de jeu vidéo, il va vous répondre 100 millisecondes plus vite. Donc, c'est marginal. De ça, on a fait tout un pataquès en nous expliquant qu'ils avaient plus de concentration, plus d'attention, alors qu'on s'aperçoit que c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est l'inverse de la concentration. Les jeux vidéo, ça nous apprend à être attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur dans le monde. En gros, ça nous apprend littéralement à être distrait. Il faut faire, dès qu'un événement se passe dans notre environnement, on se jette dessus. La concentration, par exemple, c'est l'inverse. Toutes les études confirment le fait que les jeux vidéo ont un effet négatif sur les résultats scolaires, toutes les études faites proprement, et ça c'est intéressant parce que les résultats scolaires ne disent pas tout de l'enfant, mais ils disent un certain nombre de choses de sa structuration intellectuelle, de sa structuration émotionnelle et de ses compétences sociales. Donc c'est vraiment le paramètre le plus général qu'on a de développement, et toutes les études montrent que les jeux vidéo, il y en a de très bien faites, je ne sais pas si on a 3 secondes pour développer, par exemple, non, on n'a pas le temps.
On n'a pas le temps, bon, parce qu'il y a tous les parents qui nous écoutent et qui se disent, mince, aurais-je fait fausse route dans l'éducation de mon enfant? On leur répond juste après ça.
On va en continuer à en parler avec notre invité média, Michel Desmurger, docteur en neurosciences, qui nous parle de son livre sorti aux éditions du Seuil, La fabrique du crétin digital, qui parle des dangers des écrans pour nos enfants. Vous pouvez réagir sur Twitter via notre compte @E1CultureMédia tout accroché. La suite de Culture Média, c'est juste après ça sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, on continue à parler du danger des écrans pour nos enfants avec notre invité, le docteur en neurosciences Michel Desmurger, à travers son ouvrage La fabrique du crétin digital aux éditions du Seuil, Philippe.
Et c'est sous-titré Les dangers des écrans pour nos enfants. Justement, est-ce que tous les écrans, que ce soit le smartphone ou l'ordinateur ou la tablette, ont le même effet négatif ?
Pour une bonne part, contrairement à ce qu'on pourrait croire, oui, parce que, par exemple, quel que soit l'écran, vous allez voler du temps à des activités beaucoup plus nourrissantes, le sommeil, les interactions intrafamiliales, etc. Et donc, pour une bonne part, oui.
Alors, qu'est-ce que vous pensez des écoles et des lycées et des collèges qui achètent pour les élèves des ordinateurs et des tablettes à tour de bras ?
Je pense qu'il y a une logique économique évidente. Je pense que... Bah, vous avez du mal à recruter des enseignants, donc si vous pouvez remplacer une partie des enseignements par des tablettes...
Attendez, je vous interromps, j'ai même vu un reportage qui dénonçait la fracture numérique et qui montrait des classes de banlieue, je cite, « privées d'ordinateurs contrairement aux beaux quartiers ».
Alors, toutes les études montrent que si vous avez un ordinateur ou rien, il vaut mieux avoir un ordinateur. Si vous avez un enseignant compétent ou un ordinateur, il vaut mieux un enseignant compétent toujours. Si vous avez un enseignant compétent et un ordinateur, ça ne fait pas beaucoup de différence avec un enseignant compétent. Les études, notamment les études PISA, les études de comparaison internationale, montrent que plus les pays ont investi dans les ordinateurs et dans l'informatique, et plus les résultats scolaires des enfants ont eu tendance à baisser. Encore une fois, si c'est juste mettre des ordinateurs à côté des enseignants compétents, il n'y a pas de problème, mais on a beaucoup de mal à recruter des enseignants, ça coûte très cher, donc on ne peut plus. Donc, on va donner une partie de la charge d'enseignement. Il ne s'agit pas d'apprendre le numérique, il ne s'agit pas de leur apprendre à utiliser un ordinateur, il s'agit d'utiliser l'ordinateur à la place de l'enseignant. Et ça, clairement, pour les raisons qu'on précisait au début, ça ne marche pas.
Donc c'est peut-être pas pour rien si les pontes de la Silicon Valley, c'est-à-dire les grands patrons d'Apple, Microsoft, IBM, Facebook, placent leurs enfants dans des écoles privées dans lesquelles les écrans sont bannis, seulement des livres et des cahiers. Alors maintenant,
si tu peux me permettre, ça augmente, toutes les études montrent que ça augmente les inégalités sociales, justement parce qu'il n'y a pas
du plus.
En plus, oui, ça c'est clairement établi. Oui.
Maintenant, je pense à tous les parents qui nous écoutent et qui se disent, mince, j'ai laissé mon enfant tout seul avec son ordi ou sa tablette, zut, je lui ai donné un smartphone à l'âge de 10 ans quand il est entré en 6e. Que leur répondez-vous pour les rassurer? Ou alors, parce qu'ici on va être franc, est-il impossible de les rassurer et le temps perdu est perdu?
Il est possible de les rassurer, il y a énormément de choses qui sont réversibles, des choses qui sont liées au sommeil, qui sont liées aux interactions familiales, qui sont liées à la lecture, qui sont liées aux résultats scolaires. Par exemple, il y a des études, vous mettez des écrans dans la chambre de l'enfant, vous l'enlevez, et vous suivez les résultats scolaires, quand les écrans sont pas là, ça remonte, mais c'est 15 à 20% de différence sur la moyenne assez rapidement. Quand ils sont là, ça redescend, ça remonte. Donc oui, il y a beaucoup de choses, qui sont réversibles. Et puis surtout, des règles simples, comme pas le soir quand on mange, etc., pas le matin avant l'école, pas plus d'une heure et demie ou d'une heure par jour.
Gardez le meilleur pour la fin, car dans votre livre, vous notez 7 règles simples et on va terminer avec ça. D'abord, je vais vous faire entendre le témoignage de Laetitia. C'est une maman dont le fils regardait les dessins animés et les comptines sur YouTube depuis l'âge de 18 mois, un an et demi. Pour elle, évidemment, c'était inoffensif. Jusqu'au jour où elle va consulter un médecin. Elle est au micro de Louise Bernard.
Je l'ai consultée parce que je trouvais qu'il y avait un problème. Je trouvais qu'il parlait moins bien que son frère à son âge. Il parlait moins et moins bien. Et que c'était plus compliqué en fait d'avoir des interactions avec lui. Quand on l'appelait par son prénom, il réagissait pas toujours.
Et il avait quel âge à ce moment-là?
Il avait 2 ans et 8 mois. J'ai vu la pédiatre, donc elle m'a parlé des écrans. J'ai entendu, mais en même temps, voilà, c'est parfois un peu compliqué quand on est maman et on travaille à plein temps. Avec 2 enfants, c'est plus facile en fait le soir en rentrant du travail et de l'école. À la télévision, on n'a pas forcément le temps de s'en occuper parce qu'il faut, voilà, il faut préparer les repas, s'occuper des douches, etc. Et donc c'était plus facile en fait. Pour moi, c'était pas si grave les écrans.
Mais vous décidez quand même d'arrêter de l'exposer aux écrans. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
En un mois et demi, enfin presque 2 mois maintenant, il était beaucoup plus intéressé en fait par nous parler. Tout le monde remarque d'ailleurs les grosses différences qu'il y a, qu'il a beaucoup changé.
Alors là, ça va parce que l'enfant est petit, mais comment lutter contre l'usage addictif aux écrans? C'est déjà difficile pour soi-même, alors comment l'imposer à des enfants? Comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut interdire, discuter, les deux à la fois?
Je crois qu'il faut expliquer d'abord. Ça marche beaucoup mieux. Les études montrent que quand on explique, les enfants adhèrent beaucoup mieux et que les règles sont beaucoup mieux respectées. Après, comment dire, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que plus vous allez exposer un enfant tard, c'est-à-dire avant 6 ans, il n'a pas besoin d'écran, il y a que des effets
négatifs. Ça, c'est votre première règle. Pas d'écran avant 6 ans.
Il n'y a pas d'effet positif. Donc, il n'y a pas de raison. Et c'est pas parce qu'ils ne les utilisent pas avant qu'ils ne seront pas capables d'utiliser l'informatique après.
Après 6 ans, pas plus de 30 minutes à 1 heure par jour.
Après 6 ans, la littérature montre qu'il n'y a pas d'effet jusqu'à 30 minutes. Si on fait une lecture positif jusqu'à 1 heure, à condition que les contenus soient adaptés. Vous ne mettez pas un gamin de 10 ans devant des jeux hyper violents avec des scènes hyper sexuelles comme les jeux de vidéo comme GTA. Et puis, vous respectez le sommeil. Je veux dire, même la comédie la plus sympa, si le gamin il se couche à 20h, 23h le soir, ça ne peut pas fonctionner. Donc, en respectant ces deux règles, effectivement, jusqu'à une demi-heure, voire 1 heure par jour, il n'y a pas de problème et d'impact négatif.
Pas le soir avant de dormir, c'est la règle 6. La 5, pas le matin avant l'école. La règle 7, dites-vous, une seule chose à la fois, pas d'écran pendant qu'on dîne, pendant qu'on déjeune, pendant qu'on fait les devoirs, pendant les discussions familiales.
Oui, parce que ça crée... faire plusieurs choses à la fois, ça pose des problèmes, ça fait souffrir le cerveau, littéralement, et ça facilite les problèmes d'inattention
vous
à
avez,
long terme.
Vous avez des enfants?
Oui.
Et vous arrivez à l'appliquer chez vous?
Oui, tout à fait. Mais parce que j'ai commencé tôt avec la petite, et peut-être que j'ai un peu exagéré, parce que maintenant, elle ne veut même plus de portable.
Mais voilà, vous allez recevoir donc du courrier de parents qui vont vouloir faire comme vous. Vous allez voir que vous allez faire des séminaires.
Non, mais il y a entre 5 et 10% des enfants, selon les études, qui n'en ont pas et qui se portent très bien. Je connais plein d'études qui montrent des effets négatifs. Je n'en connais aucune qui montre qu'il y ait un détriment à ne pas en avoir.
Merci beaucoup, Michel Desmurgés, docteur en neurosciences, auteur de La Fabrique du Crétin Digital. C'est aux éditions du Seuil. Culture Média, ça continue évidemment. Après le rappel des titres de 10h, on va parler culture. On va recevoir Christophe Alévèque qui revient au Théâtre du Rond-Point pour son spectacle. Christophe Alévèque ne veut pas s'en aller, une revue de presse qui défroille dans tous les sens. Évidemment, Hélène Manarino va nous dresser le portrait inattendu d'Alévèque. Et puis dans les indispensables, on va prendre la direction de la journée du patrimoine où l'on épluchera le programme du week-end. Il sera aussi question de comics et de 3 histoires avec Batman. Et ça aussi, c'est de la culture.
Et c'est dans un instant sur Europe 1.